Radio Kapi.
Oh, Kapi. Le journal Blaise Shindani Tambala.
Ils sont désormais mieux outillés pour servir l'État avec rigueur et professionnalisme. 306 cadres et agents de l'Inspection générale des finances ont reçu hier lundi leur certificat de fin de formation au cours d'une cérémonie officielle présidée par les vice-premiers ministres en charge de la fonction publique et innovation de l'administration. Les forces vives de l'Ituri saluent la guérison des malades d'Ebola et appellent au soutien du personnel médical. Ces structures déplorent cependant la faible couverture logistique de la riposte dans l'ensemble de la province. La 17e vague de la maladie à virus Ebola qui sévit en RDC depuis bientôt 20 jours multiplie des signaux positifs depuis 2 jours. Au total, 5 malades sont déjà déclarés guéris. Lors de l'émission Dialogue entre Congolais d'hier lundi, le docteur Dieudonné Mwamba, directeur général de l'Institut national de santé publique, a expliqué les mécanismes qui a abouti à la guérison de ces personnes. Vous allez les suivre au micro de Guy Matetsongo. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette grande édition du journal parlé du matin sur la radio de la paix. 306 agents et cadres de l'Inspection générale des finances ont reçu leur brevet hier lundi à Kinshasa. Et ce, après avoir suivi une session de formation à l'École nationale d'administration ENA et l'École nationale des finances NF. Les apprenants indiquent avoir acquis de nouvelles compétences qui seront mises au profit de l'État congolais. Pour sa part, le gouvernement, lui, tient à améliorer la qualité des services publics en RDC. Christian Makasinga a suivi la cérémonie, suivez son reportage.
C'est dans une atmosphère solennelle que s'est déroulée cette cérémonie marquant l'aboutissement d'un cycle de formation organisé conjointement par l'École nationale d'administration et l'École nationale de finances. Objectif, renforcer les capacités techniques et professionnelles des agents de l'Inspection générale de finances, un pilier essentiel dans la lutte contre la mauvaise gestion des finances publiques. Tombola Moké, directeur général de l'ENA.
Cette première vague de formation a permis de renforcer les compétences professionnelles essentielles à la construction d'une administration plus performante, plus transparente et plus proche.
Dans son allocution, le vice-premier ministre a salué l'engagement des bénéficiaires et insisté sur la nécessité de mettre en pratique les connaissances acquises. Il a également réaffirmé la détermination du gouvernement à poursuivre la modernisation de l'administration publique à travers des formations continues. Jean-Pierre Liaou.
Le développement de compétences des agents publics occupe une place centrale et déterminante. Une vérité s'impose à nous. On ne peut pas bâtir une administration publique moderne avec des compétences dépassées.
L'un des apprenants a indiqué qu'ils sortent de cette formation avec des nouvelles compétences qui amélioreront leur manière de travailler et contribueront efficacement à la protection des données publiques. Tundula Ali Enoch.
Ces formations nous donnent la capacité, nous arment. Ces formations nous donnent les leviers qu'il faut pour pouvoir aider l'État congolais.
Les 306 récipiendaires ont suivi plusieurs modules axés, notamment sur la gouvernance financière, les contrôles des finances publiques et l'éthique professionnelle.
Cette interrogation à présent, l'État congolais aurait-il vendu ses actions au sein de l'entreprise Plantation et Huilerie du Congo PHC? La réponse a été donnée lors d'un point de presse tenu ce lundi au siège national de la société à Kinshasa. Christian Kabuya Mulumba, directeur en charge des relations publiques et institutionnelles des PHC, a expliqué que l'État congolais, en sa qualité d'actionnaire n'ayant jamais libéré sa souscription, a informé la société de son incapacité à fournir les ressources requises et de sa décision de se retirer volontairement depuis août 2025. Ce retrait, précise-t-il, a permis d'éviter une sortie forcée qui aurait pu découler de l'application du droit au ADA impliquant des sanctions. Il estime que mêler l'entreprise à des considérations politiques de quelque nature que ce soit pourrait nuire aux 11 000 salariés directs qu'elle emploie, dont 90% vivent dans les zones rurales des provinces de la Mongala, de la Tchopo et de l'Équateur. On écoute les explications de Christian Kabuya Mulumba dans cet extrait choisi par Alain Hiro.
L'opinion publique doit retenir que l'État congolais n'a jamais été un actionnaire effectif de PHC, n'ayant jamais apporté les fonds correspondants aux actions souscrites et s'étant limité à des engagements qui n'ont jamais été exécutés. Dans ces conditions, prétendre qu'il y aurait eu bradage ou vente des actions de l'État congolais constitue une contre-vérité, dès lors que ces actions n'ont jamais été libérés. PHC demande par ailleurs à être tenu à l'écart des controverses et règlements de comptes de nature politique. Engagement citoyen de PHCS. L'entreprise s'acquitte régulièrement de ses obligations fiscales et parafiscales envers l'État congolais et n'a pas vocation à être mêlée à des conflits. Elle rappelle par ailleurs que de telles allégations et campagnes sont susceptibles de nuire à l'amélioration du climat des affaires promu par son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, ainsi que le gouvernement. À cet effet, cette campagne risque de compromettre la paix sociale dans les contrées concernées qui prévaut depuis plusieurs décennies entre l'entreprise, ses travailleurs, les communautés rurales qui bénéficient des retombées économiques et sociales de ces services.
Toujours à Kinshasa, le gouvernement a lancé ce lundi 1er juin le recrutement des agents chargés de la cartographie pour le deuxième recensement général de la population et de l'habitat, le RGPH2. Devant la presse, le ministre du Plan, Guylain Nyembo, rappelle que les recensements constituent un outil de souveraineté, de gouvernance et de développement. Il insiste, cette opération est une étape clé pour doter le pays de données fiables sur sa population. Cette première phase du recrutement démarre dans la capitale avant de s'étendre progressivement aux autres provinces du pays. Les candidatures peuvent être déposées en ligne via site officiel ou en présentiel pour les provinces où l'accès au numérique reste limité. Guylain Nyembo, ministre du Plan, dans cet extrait choisi par John Chibwabwa.
La première activité que nous lançons ce jour, c'est le recrutement des agents qui participeront aux opérations de la cartographie censitaire sur l'ensemble du territoire national, en commençant par ceux des Kinshasa dans un premier temps, avant de se déployer dans les autres provinces. Pour tous ces postes, les dossiers doivent contenir un formulaire de candidature, un CV à jour, une copie du diplôme requis et des attestations de fin de service. Les autres informations relatives aux conditions et critères requis sont à trouver sur la plateforme en ligne que je vous invite bien sûr tous à consulter sur le site www.dcr.cd/application. Il faut noter que les candidats de la ville-province de Kinshasa répondant aux conditions et critères pourront soumettre leur dossier de candidature uniquement via la plateforme que je viens, qui sera sur le site indiqué. Cependant, les candidats pour les opérations en province pourront le faire principalement via la plateforme, soit par dépôt physique au niveau des centres qui seront indiqués pour les zones non couvertes par les réseaux Internet à partir du 15 juin. La prochaine étape, ce sera le dénombrement général et nous reviendrons encore vers vous.
Dossier Ebola à présent avec cet appel au soutien lancé par la coordination de la société civile et les confessions religieuses de l'Ituri vis-à-vis du corps soignant des malades à virus d'Ebola dans les zones affectées par cette épidémie. Cela après la présentation dimanche de 4 nouveaux malades guéris au centre médical évangélique de Bounia. Ces structures déplorent cependant la faible couverture logistique de la riposte dans l'ensemble de la province, ce qui selon elle facilite la propagation du virus. Martial Kizabiamongo.
Les forces vives de l'Ituri saluent la guérison d'au moins 5 malades d'Ebola dans les zones des sentiers de Bounia et Rompara. 4 d'entre eux ont quitté l'hôpital du centre médical évangélique Semé à Bounia dimanche, munis de leur certificat de guérison. Selon la coordination provinciale de la société civile, ces progrès méritent un accompagnement de la population pour vaincre cette maladie. Cette structure citoyenne insiste sur les renforcements de la sensibilisation de la population à la prise de conscience face à la réalité de cette maladie mortelle. Dieudonné Lossa, son coordonnateur.
C'est déjà un pas vers la victoire sur la maladie, bien que l'échantillon reste trop faible. Nous voulons aussi attirer l'attention sur la faible couverture logistique à travers toute la province de l'Ituri.
Même son décloche du côté des confessions religieuses qui estiment que ces guérisons renforcent le climat de confiance entre la population et les personnels médicaux, mais aussi découragent les forces informations qui circulent sur les réseaux sociaux au sujet d'Ebola. Des activistes des droits humains et acteurs sociopolitiques encouragent les survivants d'Ebola d'être des moteurs de sensibilisation de la riposte contre cette maladie dans leur communauté. Bounia, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
Entre-temps, la lutte contre cette maladie ne faiblit pas. L'Église catholique s'engage à son tour dans la riposte au moment où l'épidémie continue de gagner du terrain dans l'est de la RDC. En tout cas, le diocèse de Bounia vient de publier publié une série de mesures destinées à protéger les fidèles et à limiter la propagation du virus au sein des communautés chrétiennes. Parmi elles, l'installation des dispositifs de lavage des mains à l'entrée des paroisses et des lieux de rassemblement. Détail avec Jean-Claude Lokidile.
Face à l'expansion de l'épidémie d'Ebola, le diocèse de Bounia appelle tous les fidèles catholiques, les prêtres, les religieux et les religieuses à s'impliquer activement dans la prévention de la maladie. Dans un communiqué signé par l'évêque du diocèse, Monseigneur Dieudonné Orenghi, l'Église rappelle que le virus demeure très contagieux et que sa chaîne de transmission n'est pas encore maîtrisée. Parmi les mesures prises figure l'installation de dispositifs de lavage des mains à l'entrée des églises et des lieux de rassemblement, le respect de la distance physique ainsi que la suppression des embrassades et autres contacts physiques. Les célébrations des baptêmes, des premières communions sont reportées, y compris les ordinations prévues le 11 juin prochain. Le diocèse de Bounia suspend également les visites aux malades dans les structures sanitaires et recommande d'éviter les retraites spirituelles, les veillées de prière et les rassemblements à risque. Les autorités ecclésiastiques invitent enfin les chrétiens à combattre la désinformation et à orienter rapidement vers les centres de santé personnes présentant des symptômes suspects. Bounia, Jean-Claude Loki, Dile, Radio Okapi.
Au chapitre politique, dans la bataille entre les partisans et les opposants à la révision constitutionnelle, le parti politique base républicaine, BR, apporte une troisième voie, prônant plutôt la restauration de l'autorité de l'État sur toute l'étendue du pays. Son président national, Hugo Zalé, a dévoilé cette position lors d'un échange avec les médias ce lundi 1er juin à Kinshasa. Cet acteur politique estime que les débats sur les changements ou non de la Constitution est inopportun en cette période où la RDC fait face à un problème existentiel à la suite de l'agression dans sa partie orientale. Les propos d'Hugo Zalé recueillis par Blaise Ndongala Mayanda.
Et pendant que le pouvoir public est interrompu dans une partie de notre territoire, nous ne pouvons pas parler de la Constitution avant de rétablir d'abord l'autorité de l'État. Ce qui fait que le rétablissement de l'autorité de l'État est un débat prioritaire, mais nous regrettons aujourd'hui les débats sur la Constitution a pris de la valeur au sein de l'opinion, au point que nous avons tendance à oublier qu'une partie du territoire échappe à notre contrôle. Nous avons voulu que nos 2 345 km² soient régis par la constitution que nous avons aujourd'hui et nous avons doté le pays des institutions. Malheureusement, il y a la guerre à l'Est, il y a des compatriotes qui ont fouillé leurs habitations, qui sont en débandade et souffrent, ont besoin de notre solidarité. Donc, pour la base républicaine, les débats sur la Constitution ne doivent même pas avoir la place. Sur les débats de la restauration de l'autorité de l'État, la base républicaine estime qu'un dialogue républicain est nécessaire.
En cette période de crise sécuritaire, le parti base républicaine propose par ailleurs de répartir des bases posées par l'accord cadre d'Addis Abeba et la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies afin de bâtir une nouvelle architecture de paix et de stabilité en RDC. Et puis, ce fait divers, une femme a été grièvement blessée par balle lors d'une attaque menée par des hommes armés dans la matinée de ce lundi 1er juin au quartier Soyo 3 dans la ville de Matadi. D'après les témoignages recueillis auprès de la famille, la maisonnée a été réveillée par des cris provenant de la chambre des filles. 4 hommes armés et cagoulés, dont 2 portaient des tenues ressemblant à celles de la police, se seraient introduits dans la maison par une fenêtre. Félicien Bilandi, époux de la victime, revient sur les déroulements de cette attaque au micro d'Élise Kavira.
On a entendu seulement des cris dans la chambre de filles. Et du moment où on voulait sortir, madame était devant moi derrière, on a croisé ce genre-là et il y a eu altercation avec madame. Et ils ont tiré sur madame, sur sa jambe gauche. Ils ont pris une somme d'environ 350 000 francs congolais. Les dollars qu'ils ont pris, ça ne dépassera pas 500 $. Le temps de chercher là où étaient gardés les bijoux, ils étaient déjà sortis. Nous sommes à l'hôpital général de référence de Kinkanda, où mon épouse, madame Émilie Manzimbala, est prise en charge. Nous déplorons ce genre de comportement, l'insécurité grandissante dans notre ville de Matadi. Donc tout à l'heure là, je suis en train de descendre au service criminel de la police nationale parce que trop c'est trop dans la vie des matériels. On entend chaque jour des pareilles situations où des éléments armés, en tenue même des polices. Donc il faut que cette situation cesse.
Sachez que les responsables de la police nationale congolaise contactés n'ont pas souhaité s'exprimer sur cette affaire.
Actualité internationale.
Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a nommé lundi 1er juin 2026 un nouveau gouvernement sans la participation de son parti, le PASTEF, dirigé par son ex-premier ministre et compagnon de route de longue date, Ousmane Sonko, qui a fait part des désaccords entre les deux hommes autour de la constitution de la liste, a annoncé le gouvernement.
L'invité.
La 17e vague de la maladie à virus Ebola qui sévit en RDC depuis bientôt 20 jours multiplie des signaux positifs depuis 2 jours. Un premier guéri de cette pathologie a été signalé le week-end. Et depuis dimanche, 4 autres soignés au centre médical évangélique de Bounia ont aussi été déclarés guéris par les experts de ces centres. Lors de l'émission Dialogue entre Congolais d'hier lundi, le docteur Dieudonné Mwamba, directeur général de l'Institut National de Santé Publique, a expliqué le mécanisme qui a abouti à la guérison de ces personnes. On l'écoute au micro de Guy Matetsongo.
Docteur Dieudonné Mwamba, bonjour. Qu'est-ce qui peut expliquer cette évolution avec ces personnes qui viennent d'être guéries?
Oui, effectivement, je me trouve ici à Bounia, sur le terrain, l'épicentre de cette épidémie. L'évolution qui se manifeste avec la sortie de 4 autres guéris du centre de traitement Ebola, le centre médical évangélique, montre que quand nous avons une prise en charge précoce, nous pouvons arriver à des bons résultats à la guérison. Parce que les 4 guéris que nous avons déchargés hier, c'était des personnels soignants qui ont été contaminés, mais dont la prise en charge a été rapide et ils ont suivi le traitement qui leur a été administré. Et malgré qu'on n'a pas un traitement spécifique, mais on a pu arriver à bout avec un traitement de soutien. Donc ceci montre qu'il y a de l'espoir et que si les efforts sont conjugués, nous pourrons arriver à contrôler rapidement cette épidémie.
Docteur Dieudonné Mwamba, il a été dit que ce sont les antibiotiques et un traitement contre la malaria qui ont été administrés à ces malades. Comment vous expliquez qu'un virus soit vaincu par des antibiotiques ainsi qu'un traitement anti-malaria?
Non, vous savez que par rapport à la souche que nous avons cette fois-ci, la souche Boudibudio, pour laquelle il n'y a pas un traitement spécifique, ni le vaccin, donc c'est un traitement de soutien que nous apportons à nos patients. Donc si le patient a présenté de la fièvre, des diarrhées, des vomissements, c'est ce traitement symptomatique de soutien qui permet vraiment à l'organisme de combattre lui-même le virus en donnant ce traitement. Ça permet au malade atteint du virus Ebola de lui-même constituer de par son immunité et de vaincre le virus dans son organisme. C'est par ce mécanisme-là qu'on arrive à obtenir la guérison de nos patients.
Et une autre question que les gens se posent, c'est comment est organisée la réintégration des personnes guéries dans la société?
Oui, déjà par exemple pour nos 4 guéris d'hier, nous leur émettons un certificat de guérison déjà pour montrer dans la communauté qu'ils ont été déchargés avec un certificat qui témoigne de leur guérison, qui n'ont plus le virus de la maladie à virus Ebola. Donc ça déjà, c'est un signe qui permet à ce que dans la communauté, ils puissent être reconnus et acceptés et admis. Autre chose, c'est qu'ils témoignent, les guéris d'hier par exemple, ils ont témoigné même devant la communauté, comment ils ont été pris en charge, comment ils se sentaient, qu'ils étaient vraiment guéris, en bonne forme. Ça permet à ce que toute la communauté puisse voir qu'ils étaient en isolement au centre de traitement et que par leur témoignage et par le certificat que nous leur émettons qui permet qu'ils soient vraiment acceptés et réinsérés dans la communauté. Et nous avons aussi nos équipes psychosociales qui les accompagnent dans leur communauté pour les présenter et de faciliter leur insertion dans les communautés.
Et faut-il attendre combien de jours pour que les personnes guéries ne soient plus susceptibles de propager la maladie, docteur?
Bon, en principe, on sait que les personnes guéries, bien qu'ils soient guéris, ils peuvent garder encore le virus dans certains liquides séminales. Et ça, nous leur demandons, par exemple, pour ceux de sexe masculin, s'ils veulent avoir des rapports sexuels, d'utiliser des préservatifs pendant au moins 3 mois pour éviter une contamination, parce que le virus persiste encore dans certains liquides, notamment dans les spermes ou dans le lait maternel. Et ce sont ces conseils quand même que nous donnons à nos guéris et nous leur conseillons d'observer ces mesures.
Docteur, est-ce que vous avez pensé à un scénario où les gens, lorsqu'ils apprennent que les personnes guéries ont été soignées par des antibiotiques et un traitement anti-malaria, que ces personnes-là puissent essayer d'utiliser l'automédication, c'est-à-dire que les personnes refusent d'aller à l'hôpital en allant dans différentes pharmacies pour acheter les produits contre la malaria, pour acheter les antibiotiques, et eux-mêmes commencent à s'administrer ces produits-là à la maison. Vous ne craignez pas cette éventualité, docteur Dieudonné Mwamba?
Oui, effectivement. Nous ne demandons pas aux malades d'aller eux-mêmes acheter des antibiotiques ou des antipaludéens dans les pharmacies. Non, au contraire, nous demandons, c'est que dès que quelqu'un voit qu'il a les symptômes de la maladie, notamment la fièvre, les céphalées, courbatures avec diarrhée, vomissement et fatigue intense, c'est d'aller rapidement au centre de santé le plus proche où il sera orienté vers les centres de traitement Ebola.
C'est par cette explication du docteur Dieudonné Mwamba que nous bouclons la boucle de ce journal, coordonné et supervisé par Lévin Mwinga Vubu et mis en onde par Jean-Claude Nsalamwanama Kengon Swalou. Ce journal est à réécouter sur notre site internet www.radiocapi.net.